Soyez vraiment les bienvenus ce matin. Nous allons ensemble méditer la parole de Dieu. Et ce matin, j'avais envie de vous parler d'amour. Je sais bien que les dames aiment bien les films d'amour en général, mais ce sera un autre amour. Je vais vous parler de l'amour de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Et pour cela, il y a un texte que nous allons prendre dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est le chapitre de l'amour. Je vais vous lire dans la version, nouvelle version du français courant. 1 Corinthiens 13. Supposons que je parle les langues des êtres humains, et même celle des anges, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de la part de Dieu, posséder toutes les connaissances et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas, et il n'est pas prétentieux. L'amour ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. En toutes circonstances, il fait face, il garde la foi, il espère, il persévère. L'amour est éternel, les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons de manière incomplète et nous annonçons des messages reçus de Dieu de façon limitée. Mais quand viendra la perfection ? Ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant, mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais que de façon incomplète. Mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, comme je vous le disais, je désire vous parler d'amour, de l'amour de Dieu qui doit être en nous. En lisant ce texte, que nous connaissons fort bien, réalisons-nous si nos motivations dans le service du Seigneur au sein de l'Église sont-elles empreintes d'amour? Ça, c'est très important. Quand nous travaillons pour le Seigneur, il est important que c'est par amour que nous faisons notre service pour lui. C'est vrai que nous sommes fort occupés dans l'œuvre de Dieu. Alors je me pose et je nous pose cette question. Sommes-nous animés de l'amour de Dieu quand nous œuvrons pour lui ou travaillons-nous pour notre gloire personnelle? C'est une question que nous devons nous poser ce matin, si nous sommes actifs ou si nous désirons être actifs dans l'Église de Dieu. Voyons d'abord ce qui n'est pas l'amour. Au verset 1er, on nous parle de dons spirituels que Dieu distribue à son Église. Et nous pouvons exercer tous ces dons spirituels qui sont à notre portée, que Dieu met à notre disposition, sans pour autant que nous soyons remplis de son amour. Nous pouvons exercer tous ces dons-là sans amour. Nous pouvons parler en langue. Nous pouvons parler des merveilles de notre Dieu sans être remplis de son amour. Alors là, frères et sœurs, nous faisons du vent. Nous parlons pour ne rien dire. On dit souvent que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Et ce serait malheureux que les chrétiens ressemblent à des tonneaux vides bruyants qui parlent pour faire du vent, parce qu'ils ne sont pas remplis de l'amour de Dieu. Voyons les disciples le jour de la Pentecôte. Ils ont fait du bruit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont tellement fait du bruit que les gens qui étaient à Jérusalem sont accourus pour voir ce qui se passait. Et ils ont entendu parler des merveilles de Dieu. Et nous voyons que l'amour de Dieu était à l'œuvre au milieu de ses disciples, parce que nous voyons ce jour-là environ 3000 personnes se sont converties, se sont tournées vers Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons prophétiser, annoncer des paroles puissantes, apporter des paroles de connaissance. Et il y en a dans les chrétiens qui connaissent la Bible par cœur, dans toutes les versions, en grec, en hébreu, ils savent nous dire tout ce que cela peut signifier, être rempli de connaissances. Mais si je n'ai pas l'amour, tout cela n'a aucune valeur pour Dieu. Nous voyons dans le livre de Jonas, ce prophète que Dieu a envoyé, et il en a eu du fil à retordre, Dieu, avec ce prophète-là, pour enfin aller porter le message à la ville de Ninive. C'était un message terrible, parce que cette ville était une ville vraiment corrompue, et cette ville-là devait être détruite, parce que Dieu en avait assez de voir cette corruption, cette immoralité au milieu de la ville de Ninive. Et nous voyons ce prophète, après pas mal de péripéties, aller délivrer le message que Dieu lui avait dit. Mais est-ce que vous n'avez jamais été frappé par le message que Jonas a apporté? Voyez-vous de l'amour dans le message? Non. C'était un message terrible que Jonas a apporté, mais sans aucun amour. Il était délivré d'une façon haineuse, vengeresse. Le prophète était content de ce que Dieu allait faire, d'aller détruire cette ville. Mais Dieu se laisse émouvoir. Dieu se laisse émouvoir par l'attitude des gens de Ninive qui se mettent devant Dieu, se prosternent devant lui, lui demandent pardon pour leur vie. Et Dieu pardonne. Et nous voyons là la colère de Jonas. Parce que Jonas n'était pas rempli d'amour. Jonas n'avait aucun amour, aucune empathie pour les gens de Ninive. Et il se fâche contre Dieu parce que Dieu a pardonné. Parce que Dieu est amour. Dieu, quand il voit son peuple, quand il voit ses enfants, quand il voit l'humanité se repentir, le cœur de Dieu s'émeut. Alors, frères et sœurs, attention, quand nous prêchons l'Évangile, quand nous témoignons, que notre témoignage soit empreint d'amour. Ne disons pas à notre voisin, toi tu iras en enfer. Ce n'est pas comme cela que nous pouvons apporter un message d'amour. Bien sûr qu'il y a un jugement pour ceux qui n'accepteront pas le Seigneur. Mais ce n'est pas les premières choses que nous devons annoncer aux personnes, c'est leur parler de l'amour de Dieu, leur parler, leur dire que Dieu est amour, que Dieu peut leur donner, leur communiquer cet amour dont ils ont besoin. Frères et sœurs, nous pouvons avoir une foi immense, soulever les montagnes et ne pas être remplis d'amour. Notre travail pour Dieu est sans valeur et stérile à ses yeux. Nous pouvons faire toutes sortes de dons financiers et quoi de plus naturel maintenant, dans des circonstances que nous traversons, de faire des dons pour les sinistrés. Nous pouvons donner jusqu'à notre vie. S'il n'y a pas d'amour, dit la parole de Dieu, tout cela ne sert à rien. Cela ne valorise que notre ego. Je ne sais pas vous, mais moi je suis toujours très surpris Quand il y a un téléthon, genre Cap 48 ou Télévie, je ne sais pas si vous avez été surpris de voir toutes ces sociétés qui viennent avec d'immenses chèques de 200 000 euros, 300 000 euros que l'on passe devant à la caméra. C'est magnifique. Soyons contents de recevoir des dons ainsi pour de telles opérations. Mais pensez-vous que ces sociétés-là opèrent ces dons par amour? Croyez-vous que c'est vraiment sont en train de l'amour de Dieu ou de l'amour de leur prochain pour offrir cela? Pas du tout. C'est un coup de pub pour leur société. C'est un coup de pub. Frères et sœurs, notre travail pour Dieu ne doit pas être un coup de pub. Notre travail doit être une œuvre d'amour. Ce que nous faisons, faisons-le avec amour et non pas pour notre gloire personnelle. La parole de Dieu dit, mais toi quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Matthieu chapitre 6. Pensez-vous que toutes ces actions soient guidées par l'amour? Eh bien non. Et dans notre service pour Dieu, qu'en est-il? Souvenons-nous de la pauvre veuve. Elle donne tout ce qu'elle a parce qu'elle aime son Dieu et Jésus la loue pour son acte. Tout ce que nous pouvons faire, si derrière tout cela, nous ne sommes pas guidés par l'amour, je répète, cela ne sert à rien pour Dieu. Je vais voir rapidement quel est le caractère de l'enfant de Dieu qui est rempli d'amour. La parole de Dieu nous dit que l'amour est patient. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où tout va très vite. Nous sommes à l'époque de l'Internet à haut débit et nous ne supportons plus la lenteur. Avant, on avait bien son temps. Quand on avait besoin de documentation, on allait à la bibliothèque, on faisait des recherches et tout ça. Maintenant, il suffit d'un clic sur Internet et nous avons toutes les données. Et si ça prend plus de 10 secondes, on est en train d'enrager sur l'ordinateur en disant « Mais qu'est-ce qu'il est lent !» Et dire qu'avant, on devait prendre le tram, le bus, ou aller à pied jusqu'à la bibliothèque, chercher le livre ou la documentation importante. Et maintenant, un simple clic qui durerait plus que de 10 secondes, nous sommes déjà énervés. Frères et sœurs, sommes-nous remplis de patience? Sommes-nous remplis de patience vis-à-vis de nos frères et sœurs qui vivent peut-être à un autre rythme spirituel que nous? Sommes-nous remplis de patience quand nous attendons la réponse de Dieu pour des cas de prière où nous révoltons-nous? Sachant que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu vit dans une autre dimension que la nôtre. Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Donc, sachons vivre au rythme de Dieu et soyons remplis de patience, qui est une preuve d'amour. L'amour est bon. Dieu est bon envers nous. Frères et sœurs, sachons que nous ne méritons pas cette bonté de Dieu. Nous ne méritons pas notre salut. Si ce matin nous sommes sauvés, nous avons rencontré le Seigneur, nous vivons en relation étroite avec lui, sachons tout simplement que c'est un effet de sa bonté, de sa grâce. Alors soyons bons. Rappelons-nous cette parabole de cet homme que le roi voulait mettre en prison parce qu'il avait une dette vis-à-vis du roi. Et cet homme s'est jeté aux pieds du roi, lui demandant d'être bon, d'être patient. Et qu'a-t-il fait, le roi? Le roi lui a remis sa dette. Le roi était rempli de bonté. Mais quand cet homme à qui on lui avait remis sa dette, quand il est sorti de la maison du roi, qu'il a rencontré un de ses collègues qui lui devait une petite somme d'argent, il a commencé à le rudoyer, à le menacer et à le faire jeter en prison. Parce qu'il lui devait de l'argent. Et l'autre l'implorait. Il n'y avait aucun pardon. Il n'y avait aucun amour pour lui. Frères et sœurs, où est notre amour pour Dieu? Où est notre amour pour les autres? Sommes-nous animés d'un amour profond pour nos frères et sœurs avec qui nous avons peut-être certains soucis? La parole de Dieu nous dit, si j'aime Dieu, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Nous devons donc ressembler à notre Dieu, qui est un Dieu d'amour. L'amour ne porte pas envie. Frères et sœurs, ne soyons pas remplis de jalousie. Si nous avons de la jalousie, demandons à Dieu qu'il nous en détache. Cette jalousie qui s'attache à notre cœur, comme on est vite envieux. Quand nous voyons notre voisin qui a acheté la plus belle des Renault, il ne peut pas de publicité, là, n'est-ce pas ? Eh bien, on se dit, il a gagné au loto celui-là, ou quoi ? Hein ? Comment est-ce qu'il peut avoir une belle maison, une belle voiture ? Hein ? T'as vu les vêtements qui se payent ? Nous sommes jaloux. Nous jalousons les autres. Au sein de l'Église, ne nous jalousons-nous pas les uns les autres ? Si nous voyons qu'un frère ou une sœur est plus béni que nous, plus dynamique, ou qu'il y a un travail magnifique au sein de l'Église, ne sommes-nous pas jaloux ? Ça, ce n'est pas de l'amour si nous sommes ainsi. Le Seigneur nous dit que l'amour ne porte pas envie. Ne jalousons pas, frères et sœurs, les bénédictions que nos voisins peuvent avoir. Mais réjouissons-nous pour la bénédiction que le Seigneur leur accorde. 1 Corinthiens 3 nous dira, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Proverbe dira, « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel. » Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Oh, frères et sœurs, nous pouvons aussi nous provoquer les maladies parce que nous sommes jaloux, parce que nous sommes envieux, parce que nous nous rongeons au lieu d'être remplis d'amour. La jalousie fait de nous des hommes et des femmes charnels, des enfants qui pleurent parce qu'ils n'ont pas reçu leur bonbon, n'ont pas reçu leur bon point. Ah, quand on était à l'école et qu'on notre voisin recevait un bon point, nous pas, on était jaloux, on était fâchés contre l'institutrice. Ne soyons pas ainsi, frères et sœurs. Sachons nous réjouir des bénédictions des autres. L'amour aussi n'est pas rempli d'orgueil. Dans quel but servons-nous le Seigneur ? Pour notre gloire personnelle ou pour la gloire de Dieu ? Oh, combien parfois nous aimons que l'on mette en avant notre travail. Le frère un tel a mis en couleur le plafond de l'église. La sœur un tel a nettoyé le pavé. Etc., etc. Le frère un tel, il est merveilleux quand il préside, etc. Mais tout cela ne glorifie pas Dieu, ne nous remplit pas d'amour. Plutôt, c'est une manifestation de notre ego. Frères et sœurs, ne soyons pas remplis d'orgueil. Rendons gloire à Dieu au lieu de rendre gloire à nous-mêmes. Si nous avons un ministère ou un talent, mettons-le au service de l'Église et que la gloire revienne à notre Dieu. Exclusivement. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, dit la parole de Dieu, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Je continue. L'amour ne fait rien de malhonnête. Oh, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a personne de malhonnête, du moins je l'espère, parce que être malhonnête les uns envers les autres, ça ne glorifie pas Dieu. N'oublions pas l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui ont été malhonnêtes vis-à-vis de l'Église quand ils ont vendu leur champ. Ils ont fait croire que le don qu'ils faisaient à l'Église était l'intégralité de la vente, mais ils en avaient gardé une partie pour eux-mêmes. Dieu ne vous portera pas préjudice si vous avez reçu une grosse somme d'argent et que vous ne donnez que, au lieu d'un million, vous n'en donnez que 500 000. Mais ne dites pas « j'ai donné l'intégralité ». Comme ont fait ces deux personnages. Là, nous sommes malhonnêtes envers Dieu. Que nous soyons honnêtes les uns envers les autres et envers Dieu quand nous faisons des choses pour le service. L'amour ne cherche pas non plus son intérêt. Ne recherchons pas ce que cela peut nous rapporter à nous, frères et sœurs. Ne recherchons pas nos intérêts quand nous faisons quelque chose pour Dieu. Ne faisons pas quelque chose pour Dieu pour recevoir une bénédiction. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Mais que nous puissions servir le Seigneur par amour. L'amour ne s'irrite pas. et comme bien de fois nous sommes souvent irrités, contrariés, parce que ça ne marche pas comme nous voulons que ça marche. Et nous sommes irrités. Comme vous voyez le prophète Jonas, comment il était irrité contre Dieu parce que ça n'a pas marché de la façon où il voulait que ça marche. Là, cela prouve que nous réagissons ainsi, que nous ne sommes pas remplis d'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Combien de fois ne sommes-nous pas soupçonneux? Quand nous entendons quelque chose, nous l'interprétons à notre façon. Ah, mais s'il a fait ça, c'est que... Hein, et s'il ne vient pas aujourd'hui à l'église, c'est parce qu'il doit aller... Il fait ceci, il fait cela, il travaille en noir. Et on soupçonne un tas de choses. Mais l'amour n'est pas soupçonneux. Si un tel n'est pas là aujourd'hui, n'allons pas penser, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est sûrement parti manger au restaurant, au lieu de venir à l'église, il est allé voir un match de foot. Mais ce n'est pas cela que nous devons faire, que nous puissions être des gens remplis d'amour. Et si nous avons peut-être des reproches à faire, peut-être même à juste titre, faisons-le avec amour, reprenons avec amour nos frères et sœurs, n'allons pas les démolir. Nous interprétons parfois toujours mal certaines choses, nous pensons souvent mal, et cela, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se réjouit pas d'injustice, c'est bien fait pour lui. Ah, il s'est cassé la jambe, mais je suis bien content. Ah, c'est la méchanceté de cet homme-là qui a fait que, combien de fois là? Hein? Et quand on se tape avec un marteau, ah, on dit c'est la méchanceté hein, qui sort. Hein? Frères et sœurs, soyons un peu différents. Nous ne nous réjouissons pas de l'injustice. Nous ne nous réjouissons pas de tout cela. Combien de fois ne prononçons-nous pas des paroles qui ne glorifions plus à Dieu? Et je crois que nous sommes tous ainsi. Moi le premier. Mais quand nous voyons arriver des choses, arriver à ces gens que nous n'aimons pas, eh bien, parce que nous n'aimons pas tout le monde, soyons quand même honnêtes. Demandons à Dieu qu'il nous donne cet amour pour les autres. Et nous ne nous réjouissons pas quand des choses leur arrivent. Frères et sœurs, l'amour est pardon. Si nous sommes remplis d'amour, nous savons pardonner. L'histoire du fils prodigue, nous voyons un père qui a été humilié par ce fils, qui a demandé un héritage alors qu'il n'était pas encore mort. Et cet héritage a été dépensé. Et puis ce fils revient auprès du père. Et le père pardonne. Mais nous voyons la réaction de son frère aîné. Il ne peut pas accepter que son frère soit pardonné. Il ne peut pas accepter que l'on se réjouisse dans la maison. Parce que pour lui, ce frère, c'est un débauché. Il ne mérite pas son pardon. Frères et sœurs, sachons pardonner. Si nous avons des membres de notre famille qui ont commis des choses peut-être impardonnables, demandons au Seigneur la force de leur pardonner. Si nous avons des frères et sœurs chrétiens qui ont commis des fautes, sachons leur pardonner. Ne leur retournons pas le dos, ne fermons pas la porte, mais soyons remplis d'amour. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. La parole de Dieu nous dit que celui qui est debout, fasse attention qu'il ne tombe. L'amour fait confiance. De quel amour Dieu ne nous a pas fait cadeau en nous faisant confiance? Il nous a laissé les clés de l'Église, c'est à nous de faire prospérer son Église. C'est à nous d'évangéliser, c'est à nous de travailler au sein de l'Église. Quel cadeau merveilleux Dieu nous a fait! Quelle confiance il nous fait alors que nous ne méritions pas cette confiance! Sachons nous faire confiance les uns les autres. Sachons faire confiance à nos frères et sœurs, que nous soyons vraiment remplis de cet amour qui fait confiance. L'amour est espérance. Dieu a pour espoir que le plus grand nombre d'êtres humains se repentent, parce que Dieu est patient. Et il use encore de patience avant son retour, parce que Dieu nous aime, Dieu aime l'humanité, et Dieu attend. Prions, frères et sœurs. Ayons cette espérance que cette Église puisse se remplir de personnes qui rencontreront le Seigneur et que nous puissions prier ainsi pour que l'Église puisse se remplir d'hommes et de femmes sauvés par l'amour de Dieu. L'amour supporte tout. Que n'a pas enduré notre Seigneur jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il a supporté la souffrance. Il a supporté les crachats, les injures, les insultes. Il a supporté la moquerie. Le texte que Henri nous a lu, nous voyons que Jésus est en train de, pas se disputer, mais d'être contrarié par les pharisiens parce qu'ils ne peuvent pas croire qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas supporté ? Tout cela parce qu'il nous aimait, parce qu'il aimait l'humanité. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à tout supporter ? La moquerie. Quand on dit nous sommes chrétiens et que l'on se moque de nous, pouvons-nous le supporter sans nous énerver ? Je vous l'ai déjà raconté que je me suis des fois emporté pour défendre la cause du Christ, mais ce n'est pas cela que Dieu attend de moi, qu'il attend de nous. Nous devons supporter ces moqueries et montrer notre amour pour ceux qui se moquent de nous. Frères et sœurs, tout cela un jour prendra fin. Nos réunions, les prophéties, la connaissance, les langues, mais l'amour, lui, est éternel. Alors, frères et sœurs, consolidons ici-bas notre amour. Consolidons notre amour envers Dieu, envers nos frères et sœurs. Faisons disparaître en nous tout ce qui nous empêche d'aimer. L'apôtre Paul nous dit, ne soyons pas des enfants spirituels, soyons des adultes, avec des raisonnements d'adultes. Ne nous livrons plus à des gamineries, les temps sont courts. Nous devons avancer dans notre marche et nous pouvons hâter la venue de notre Sauveur par notre attitude, par notre façon de vivre, par notre façon d'aimer. Rachetez le temps, nous dit la parole de Dieu, car les jours sont mauvais. Alors, aimons, soyons remplis de l'amour de Dieu dans toutes nos relations, dans toutes les circonstances de notre vie. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. L'amour demeurera éternellement. Alors, je n'ai qu'un mot à dire. Aimons. Aimons. Nous, les uns les autres, aimons-nous ardemment, aimons notre Dieu, aimons cette humanité, aimons nos frères et sœurs, que notre vie soit empreinte d'amour. Car, frères et sœurs, dans l'éternité, nous baignerons totalement dans l'amour, alors commençons déjà ici-bas à nous entraîner à aimer. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu nous as aimés dans l'amour éternel. Et nous sommes loin de t'aimer, de nous aimer de la même façon que toi. Ô Père, pardonne-nous, Seigneur. Puissions-nous ce matin comprendre que nous devons aimer notre prochain, aimer nos frères et sœurs, aimer les perdus de la même façon que toi. Seigneur, remplis ton Église de l'amour divin, que le monde voit que nous sommes différents. Amen.